Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, nous analysons ensemble les shows de la WWE. Et avec moi pour analyser cet épisode de Monday Night Raw du 9 mars 2020, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Comment vas-tu?
Ça va très bien et toi?
Bon écoute, ça va, comme je te l'ai dit hors antenne.
Ça roule.
Annuler mon abonnement de salle de sport.
Ouais, beaucoup de trop de microbes qui se baladent.
Trop de microbes, j'ai bien vu que de toute façon, ça servait à rien. Alors j'ai fêté ça en buvant une bonne bière.
Voilà, j'en suis arrivé au même constat que toi. Par contre, j'ai toujours mon abonnement,
âge,
j'ai plus. Ouais. C'est le côté, je me voile la face, j'ai encore mon abonnement, je dis que je vais... Non, mais je vais y aller. Mais
moi, ouais, je l'ai gardé pendant presque 6 mois hein, avant de...
Ça, c'est classique, ça.
Ouais. Et surtout quand tu vas
procrastinateur comme nous, ça.
Ouais, quand tu vas faire la démarche d'y aller, tu te motives, allez, je vais annuler mon abonnement à la salle de sport, tu te fais une raison. Tu dis, allez, non, une petite dernière fois, je suis sûr, toi. Mmh. Et puis finalement, tu n'y vas pas, toi. Ouais.
Puis après, il y a toujours la dernière barrière aussi, où pour annuler les abonnements, il faut envoyer un recommandé avec des papiers, machin. Alors du coup, tu dis OK, et puis après, tu ne le fais pas. Ouais, mmh. Et puis voilà.
Alors moi, sans citer de marque, la mienne, la salle de sport où je suis, tu fais ça directement sur une borne à la salle.
Ah oui, c'est très, très 2.0 là.
Ouais, c'était 2.0. Bon, une fille qui était 2.0 il y a un an, c'était Becky Lynch, puisqu'elle était
oui.
Becky Two Bells.
Becky Two Bells, c'est vrai, elle était 2.0.
Ouais, elle était 2.0. Là, elle n'est plus que 1.0. Et peut-être qu'elle va être 0.0 à l'approche de WrestleMania.
Qui sait?
Qui sait, puisque Shayna Baszler, bah, et la menace, hein, la menace, on a vu. Un grand exploit de Shayna dans la chambre d'élimination, hein, puisqu'elle a éliminé ses 5 participantes. Je vous invite à écouter notre belle analyse hein, de la chambre d'élimination avec un revenant, Raphaël, qui est revenu
dans
son périple d'Amérique du Sud.
L'équipe se ressoude, ça y est. Hein.
Voilà. Bah ouais. Et d'ailleurs, si on peut éviter qu'il vienne au studio en même temps que nous, parce que je ne sais pas quel genre de microbe il a ramassé.
Oui, alors par contre, il est passé dans à peu près tous les pays à risque du monde. Donc c'est vrai que... On était obligé de le mettre en quarantaine.
C'est ça, le studio en quarantaine. Becky Lynch, ouvre... Alors ça, c'était marrant, je me suis dit, qui va ouvrir le show à Monday Night Raw après ce Elimination Chamber sans main eventer?
Rien de mieux que quelqu'un qui n'était pas au pay-per-view.
Voilà, qui a paru genre 3 secondes en train de regarder la télé. Ouais, ça en disait un petit peu long sur ce drôle de pay-per-view. Ouais. Toujours est-il que la championne est là. C'est la fini de rigoler. Elle a son opposante officielle, son adversaire officiel pour Mania. On a évidemment, on nous repasse ces vidéos terribles hein, de Shayna Baszler qui a décimé ses opposantes. Même
oui,
si on peut, dire,
oui.
On peut pas dire décimer. Je me suis fait taper sur le doigt la dernière fois.
Ah bon?
Bah, tu décimes, que tu décimes en fait, c'est par dizaines. Tu peux
ah
pas
bon
décimer quelqu'un.
Ah, d'accord, ok. Je ne savais pas que c'était. Il y avait un sens comme ça.
Je pensais pas qu'il y avait un sens au mot que j'employais.
Non, mais tu sais, je pensais que décimer, c'était par rapport à. Tu sais, tu coupais la cime, genre tu étêtais, tu vois, genre tes adversaires, tu les décapitais.
Non.
Mais,
décimer.
En fait, pas du tout, quoi. Ah oui,
c'est tué en grand nombre.
Dizaine, quoi. Ah ouais,
c'est tué en grand nombre.
Bon, écoute, c'était une demi-dizaine. Voilà.
Elle
a demi-décimé ses adversaires.
Demi-décimé ses adversaires. Ce qui est déjà pas mal. Hein.
Ce qui est déjà quand même un sacré fait d'armes. Oui.
Voilà. Donc, effectivement, hein, c'est une sacrée adversaire qui l'attend. Mais c'est quand même une sacrée. Alors, sac à écume, mousse. C'est pas
alors c'est pas exactement ça, mais ouais, enfin ouais, c'est
une ordure,
c'est une insulte, c'est pas une insulte très gentille, oui.
Non, et surtout, alors, celle-ci, elle m'a bien fait marrer, un trou noir de charisme.
Oui.
On sait qu'on aime bien se moquer des catcheurs et des catcheuses qui aspirent le charisme des autres pour le réduire à néant. Et on a quelques énergumènes à la WWE, mais généralement, ils finissent à main event. Vous voyez ce que je veux dire. Becky, c'est elle qui gère la division féminine. C'est peut-être une bitch, mais c'est elle qui run la division. Et elle tout simplement, elle menace hein, Shayna de lui faire subir un peu le même sort qu'elle a fait subir à Honda quand elle lui avait pété la main pour lui choper le championnat et qu'elle va tout simplement lui détruire la tronche. Bon, qu'est-ce qu'on peut tortiller du cul quand même pour ce match qui a été il y a 2 mois?
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant pour les 3 ou 4 prochaines semaines pour qu'on ait vraiment de la grosse hit sur cette rivalité?
Bah écoute, je pense que à part refaire à peu près la même chose que l'année dernière en moins bien, je vois pas trop ce qu'elles peuvent faire. Ouais. Parce qu'on est clairement sur une affiche. Bah en plus, déjà, elle mentionne Ronda Rousey dans sa promo.
Ouais.
Et du coup, bah voilà, on y repense et on se dit, bah ouais, en fait, c'est Becky Lynch qui va se retaper une nouvelle nana du MMA, sauf qu'elle a pas du tout le charisme et l'aura de Ronda Rousey. Donc en fait, c'est la redite de l'année dernière, en moins bien. En plus, il n'y a pas Charlotte dedans. Donc j'ai du mal à voir. Je pense que ce qui va se passer sur les 4 prochaines semaines, c'est qu'il va y avoir du brawl. Il va y avoir du brawl costaud, il va y avoir du bitch qui va voler dans les promos, comme aujourd'hui, elles vont s'insulter pour faire genre, c'est legit, elles s'aiment pas du tout. Et puis, on va avoir rebelote, quelque chose qui sera peut-être sans doute un affrontement plus technique, à manière peut-être plus intéressant, parce que c'est vrai que Shayna est peut-être plus aguerrie à l'exercice du catch, vraiment... avec un catch très basé sur les soumissions, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympa entre les deux. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, parce que je pense qu'elles vont le vendre comme une grosse baston sanguinaire. D'ailleurs, le coup de... Enfin, voilà, tout était parti d'une morsure assez incroyable il y a quelques semaines. Elles vont vendre ça comme une bataille de bar, alors qu'au final, il y a quand même de fortes chances qu'elles catchent au sol avec beaucoup de prises et très techniques. Donc, il risque même en plus d'y avoir une sacrée dissonance, je pense, au niveau du match par rapport aux promos. Mais ouais, écoute, voilà, c'était une promo ultra basique, bien incarnée par Becky Lynch, qui sait toujours mettre le feu là-dedans et tout. Mais c'est ultra basique. On dit bitch, on dit que je vais te défoncer, et puis on passe à la semaine prochaine. Je pense que voilà, c'est ce à quoi on devrait pouvoir s'attendre, mais ça m'emballe pas des masses, ouais.
Est-ce que finalement la vraie menace pour Becky Lynch, c'est ce côté très arrogant qu'elle a rapport à l'année dernière?
Mm-hmm.
C'est peut-être un petit peu le twist, la petite différence par rapport à il y a un an, effectivement, où cette fois-ci c'est elle qui est en haut de la chaîne alimentaire.
Oui,
mais
tu as raison.
Je sais pas, je suis pas encore complètement embarqué par cette histoire.
Non,
et ça,
non.
Moi, ça m'embête un peu en fait. Je suis un peu déçu de pas être à fond.
Chiant, hein. C'est censé être le top match féminin. Et c'est vrai qu'ils partent avec une grosse pression par rapport à l'année dernière quand même. À ce niveau-là, ils ont placé la barre tellement haut, probablement ils la remettront jamais aussi haut, on en a suffisamment parlé, que du coup c'est vrai que là tout de suite on a l'impression d'avoir un truc de un petit peu de seconde zone. L'angle qui reste, t'as raison, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que c'est ce changement d'attitude de Becky Lynch, qui est quand même mine de rien assez différente par rapport à l'année dernière, où elle était vraiment chasseuse et à vouloir accomplir un peu sa propre prophétie éternelle sous-cotée et ignorée à la WWE, qui va enfin choper les 2 titres à Mania. Là, maintenant, elle est champion, elle se la pète à fond. Il y a peut-être un truc à jouer là-dessus. Elle est clairement ultra arrogante, que ce soit face à Asuka il y a un mois ou là. Ça peut peut-être être aussi l'opportunité de lui faire bouffer une grosse, grosse défaite et de la remettre un peu en mode, tiens, rédemption après, derrière, et elle repart un peu à la conquête de la foule, et après WrestleMania, ça pourrait être quelque chose de jouable. Ouais.
Ouais, exactement. Bon, nous verrons la semaine prochaine pour cette affiche. La Familia. C'est Rey Mysterio, Angel Garza qui avait un match ce soir, premier match de la soirée. Donc on continue hein, dans cette affaire de Latino. Donc gros petit match entre les deux là de 10 minutes avec comment s'appelle-t-elle déjà?
Zelina Vega.
Zelina Vega évidemment qui accompagne. Angel Garza, d'ailleurs Angel Garza qui ne respecte pas du tout les consignes sanitaires puisqu'il fait un gros smack à une fan du public.
Oui, ça c'est pas bien ça.
Hein ? On va finir par annuler WrestleMania, ils vont le faire à huis clos, ils vont rien comprendre.
C'est en Chine,
ouais. Ouais, ça j'y pense un petit peu. T'y penses toi à ça ? Imagine. Dans un mois.
Écoute, c'est vrai que, enfin, quand on voit ce qui se passe en Europe d'un point de vue sportif, enfin sur toutes les affiches là de foot, de rugby, de n'importe quoi là, qui se joue soit à huis clos, soit sont carrément annulés, on peut commencer à se poser la question de l'avenir de WrestleMania, ouais.
Bon, écoute, il reste 4 semaines pour trouver
le vaccin.
Peut-être qu'on pourrait mettre nos meilleurs scientifiques de la WWE là-dessus. En attendant, on ne va pas se priver. On a eu un match entre les deux luchadors. Mysterio qui commence costaud. Il se fait un petit peu contrer par Garza qui reprend le dessus. Il retire son pantalon, évidemment. Et à la fin, Garza, qui a contré le 619, se prend, place un super kick, mais le Destroyer de Rey Mysterio est contré, mais lui, il compte place son 619 malgré tout, et le Springboard Splash, pardon, pour la victoire. Une belle petite victoire pour, une victoire pour Rey Mysterio. C'était voilà, du fun, un peu d'apéro avant peut-être la grosse affiche qu'on espère. Pourquoi pas entre les quatre membres de cette micro-division à la WWE. Et puis le petit détail, mais bon, c'est normal. Zelina Vega n'était pas très contente, était un peu déçue de voir son poulain perdre. Mais bon, on continue avec les Latinos.
Et oui, surtout qu'en plus, Andrade est revenu. Alors, est-ce qu'elle va se lasser aussi vite qu'elle s'est éprise de Angel Garza? On va voir. non, écoute, encore une fois, du plaisir pris de mon côté de voir ce petit match de Lucha à Raw. C'est toujours... je continue à avoir le même réflexe chaque semaine. C'est un plaisir de les voir sur mon écran pour cette petite aparté hispanique, hispano-mexicaine, là. De Monday Night Raw. Encore une fois, un match super sympa à regarder, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Super fluide, Rey Mysterio toujours aussi bluffant à son âge. Et Angel Garza qui je trouve vraiment un super catch de heel flashy qui est très très agréable à suivre. On échange un peu les victoires, voilà, Angel Garza qui avait gagné un petit peu ces derniers temps, là il se fait prendre par le vétéran Rey Mysterio. Tu sens quand même que on essaye de créer un peu une sorte d'émulation entre les quatre pour tous les afficher un petit peu au même niveau, hein, même Humberto Carrillo qui a perdu sur un roll-up après un match très disputé à l'Elimination Chamber contre Andrade la veille. Donc on sent la volonté en tout cas du booking d'arriver à placer un petit peu les quatre de manière très compétitive. Il n'y a jamais de match expédié, c'est toujours très accroché. Donc c'est pour ça que ça me plaît bien, parce que parfois on peut reprocher aussi à la WWE de toujours faire un peu du 50-50 dans son booking et de faire gagner, de perdre un peu tout le monde. Là, quand c'est fait de manière ultra compète et avec des matchs très accrochés comme ça, je trouve que c'est pas un problème. Et si on arrive peut-être à un petit Fatal 4-Way pour le titre US à WrestleMania, par exemple, moi, ce serait quelque chose qui me plairait énormément. Donc voilà, je continue d'apprécier tout ça.
Ouais, écoute, je te rejoins plutôt pas mal. C'est vrai que, comme tu dis, on axe vachement sur le côté compétitif des quatre bonhommes, là. Et on a quand même des sacrés personnages. Donc, Angel Garza tire plutôt bien son épingle du jeu.
Ah ouais, il en profite à fond, hein, ouais.
Ouais, profite tant que tu peux, mon petit. Profite. On retourne en division féminine, puisque Charlotte est là, elle a son micro, et elle nous parle de Rhea Ripley, qu'elle a défié pour WrestleMania pour le titre de NXT. Voilà, la Rhea Ripley, c'est le nouveau jouet préféré de tout le monde. Elle brille, tout le monde trouve ça cool pour Rhea Ripley, mais elle est un petit peu perdue là, Charlotte, parce que Rhea Ripley a dit qu'elle voulait, elle a dit, je cite, pour être la meilleure, tu dois battre la meilleure. La meilleure est Charlotte, mais en même temps, Rhea Ripley ne veut pas être comme Charlotte. Donc c'est vrai que ça n'a aucun sens. Ce que Charlotte pointe, et de toute façon, la réplique ne sera jamais comme Charlotte, puisqu'il n'y a qu'une seule et unique Charlotte. Profite un petit peu de ta célébrité, ça ne durera pas, ça sera vite de l'histoire ancienne, elle va apprendre à Rhea Ripley une leçon. Parce que tu peux, peu importe où tu es, que ce soit dans un stade vide ou dans un stade plein, bah voilà, c'est la reine après tout, elle est la vraie reine. Et Rhea Ripley débarque, petite surprise, je ne m'y attendais pas. Elle coupe Charlotte. Mais Charlotte lui dit attends, ma grande ici c'est pas NXT, c'est Monday Night Raw, c'est le royaume de Charlotte, tu peux disposer. Et Rhea Ripley lui répond par une grosse droite dans la tronche, laissant Charlotte avec ce visage qu'elle a souvent où son petit sourire là. Ah ouais, d'accord.
Okay.
Elle se relève rapidement et puis voilà, on sent que ça l'a un petit peu titillé. Bon, service minimum hein, pour cette affiche c'est marrant, hein, ça ressemble pas mal quand même à... Ils n'ont pas joué la même... C'est pas la même storyline, mais on a finalement un peu une double affiche là qui se fait un petit peu miroir aussi, un peu comme les hommes, avec deux vétérans dorénavant du main roster, hein, deux patronnes du main roster, qui vont avoir affaire avec deux jeunes pousses là, de la division jaune. Est-ce que dans cet exercice, là, Charlotte et Rhea Ripley sont tirées, d'après toi ?
Eh bien, écoute, ouais, enfin, en tout cas, c'était pas non plus transcendant. Elle n'a pas réinventé la promo. Elle a fait un peu comme Becky Lynch, en fait, Charlotte. Elle a fait le taf micro. Elle a fait ce qu'elle sait faire. Elle a bien embarqué. Elle incarne bien son personnage. Elle a posé les enjeux. Mais en fait, elles partent avec un avantage sur l'autre affiche qui, pour moi, est un peu la fraîcheur du truc parce que c'est un peu inédit déjà. Première fois que le titre NXT va être défendu à WrestleMania, qui plus est face à une membre du main roster, pas n'importe qui. C'est la nana la plus titrée, la meilleure catcheuse de toute la WWE qui descend, on va dire, au niveau inférieur. Pour donner une chance à la championne d'NXT de montrer sa valeur et tout. Enfin, y a un côté forcément qui est plus frais, qui est plus intéressant, qui est plus intriguant quoi, à cette affiche-là. Même si elles font le service minimum, y a de base, on va dire, le décor me séduit plus. Quoi. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal accroché. J'ai été aussi, comme toi, assez surpris de voir Rhea Ripley débarquer. Et puis bah, là, ils ont joué sur ses forces aussi. À savoir que c'est pas forcément le micro, elle, son point fort, c'est plutôt la castagne, hein, c'est la bagarre, c'est une brôleuse. Donc elle arrive, elle joue sur son charisme et sur son entrée, qui est réelle. Et puis, bonne patate, et puis, la semaine prochaine. Moi, ça m'a, personnellement, c'est vrai que ça m'a donné plus envie déjà de voir un petit peu, avec ce petit sourire un peu carnassier, de Charlotte à la fin, en mode, tu vois, elle aime la compétition, elle aime le challenge, et là, elle est en train de se dire, ah ouais, la petite gamine... Ok, elle en a. Je vais lui donner la leçon. C'est bien, ça me plaît. Donc ouais, c'est voilà. Il y a un truc qui m'accroche plus, même si c'est simple, que l'autre affiche, ouais.
Bon, on verra lesquels des deux s'en tirera le mieux dans cet exercice. Allez, tiens, on va rester chez les filles, si tu veux bien. Je fais un petit saut dans le temps. On a eu les Kabuki J'accepte. Warriors qui étaient hystériques ce soir. La promo en japonais qu'elles ont faite était assez dingue. Oui. Ça a duré 5 minutes. Je ne sais pas ce qu'elles ont raconté.
C'est l'avantage avec ces promos, c'est qu'elles gueulent des trucs et toi, tu es là, tu te marres et tu te dis c'est incroyable.
Mais elles vivent vraiment le truc et puis elles glissaient 2-3 mots en anglais de temps en temps, donc tu commençais un petit peu à caler. Voilà, elles ont un moment, elles pleurnichaient parce que tu avais... Asuka qui était blessée suite à son match face à Shayna Baszler dans la chambre d'élimination et du coup elle a son petit bandage et puis t'as Kairi Sen qui était là et qui pleurait ah là là bobo à bobo et Asuka qui faisait à bobo et elles veulent de la compète enfin elles veulent se venger quoi, elle est enragée là Asuka et du coup elle veut Alexa Bliss. Elle veut Alexa Bliss, elle veut foutre sur sa gueule à Alexa Bliss. Donc peut-être qu'on voilà, on est en train de replacer les Kabuki Warriors, peut-être par rapport à cette histoire de ceinture tag team. Est-ce qu'il paraît une ceinture tag team pour les filles à WWE ?
Il me semble. avoir
Sauf
vu quelque
que
chose.
C'est pas Alexa Bliss qui arrive, c'est Natalia accompagnée de Liv Morgan. Donc on a eu un match de 10 minutes entre les quatre. Un match correct. Donc on a eu, je perds le fil. Natalia qui est là, oui. Alors en plus, c'est Ruby Riot qui est arrivée. Oui, c'est ça.
Ah bah oui, alors il y a beaucoup de bordel.
Ouais,
du c'est Riot bordel.
Ouais. Donc à un moment donné, donc on a Ruby Riot qui débarque, qui reste là pour te là un petit peu l'air menaçant. Liv Morgan, Kerry Sen, pardon, attaque Natalia au niveau de son bras parce qu'elle est venue quand même à la,
oui.
un peu vendue quand même. La grosse fessie qu'elle s'est prise à Natalia. Au passage, franchement, Natalia, c'est un de mes tops de ce pay-per-view parce qu'elle a quand même elle a donné son corps à la science.
Oui, c'est vrai.
Donc, les méchants ont pu en profiter. Asuka essaie de passer son armbar. Et Sarah Logan arrive à ce moment-là. Ruby et Sarah, grosse brawl côté ringside. Liv Morgan qui place sa dive, qui dive sur elle, parce qu'on va continuer la rivalité entre les trois filles.
Bah oui, hein, pourquoi pas.
Du coup, Natalia s'est retrouvée un petit peu toute seule, et du coup, bah, elle s'est bouffée un gros head kick dans la tronche pour la victoire des Kabuki Warriors en 10 minutes et 45 secondes. Les Riot Squad, la grande histoire de cette route pour WrestleMania.
Aïe, aïe, aïe.
Est-ce qu'on a là du main event matériel?
Ah bah écoute,
j'ose poser la question.
Tu oses, moi je me demande si un triple threat entre les trois aurait même sa place dans le pré-show de WrestleMania, je pense pas. je dis ça sérieusement en plus, hein, je pense même pas que ça a sa place dans le pré-show. Donc en fait, du coup, je sais même pas pourquoi est-ce qu'il continue à faire quelque chose autour d'elle, parce que c'est probablement quelque chose qui va se dérouler dans la... Sneakers, Mars Nestlé Battle Royale du pré-show là, avec les filles. Elles vont se battre dans la bataille royale et puis elles vont s'éliminer. C'est peut-être une des trois qui va gagner, j'en sais rien. Déjà, j'étais content qu'ils aient pas trop. Ils nous aient pas fait l'injure, on va dire, de trop axer l'Elimination Chamber autour de ça, parce que pour nous faire croire qu'on en avait quelque chose à foutre. Donc c'est bien, parce qu'elles ont été toutes éliminées par Shayna Baszler avant même de pouvoir raconter quelque chose. C'était assez rigolo. Donc là, ouais, je sais pas pourquoi est-ce qu'on continue avec ça. Au lieu de se concentrer sur les championnes tag team qui, comme tu dis, ont une ceinture, ont une place à WrestleMania plus légitime quand même à briguer, et pourtant... Eh ben, on profite pas là. Ça y est, là, c'est la dernière ligne droite. Hein. Le dernier pay-per-view est passé. Les Kabuki Warriors, c'était l'occasion, je sais pas, de les faire affronter une vraie équipe, de commencer à faire quelque chose. Ou alors, elles aussi, elles vont finir dans la bataille royale Sneakers. Là, je sais pas. Mais
c'est pas impossible.
C'est pas impossible, hein, mais bon.
Franchement, là, à l'heure actuelle, là, ils ont mis Natalia et Liv Morgan en tag team.
Alors, plus random, tu meurs.
Ouais, voilà, plus random, tu meurs. Comme tu dis, ah, toi, t'es blonde, toi aussi.
Allez, bah, allez, hop, là, les filles.
Du coup, et pour autant, on n'a même pas écrit une histoire d'équipe qui commence à se former, toi. Hein, donc,
ah non, ils n'ont pas pris le temps de faire une petite promo backstage, rien du tout.
Ouais, ils ont juste donné la main en arrivant sous le petit tronc, ouais. Genre meilleure coucou. Copine. Ouais, coucou. Oh, c'est nous. Et ouais, c'est un peu des... On s'embarrasse de drôles de storyline, là.
Ouais, finalement, je sais pas pourquoi c'était sur ma télé lundi, quoi, en fait. Ouais.
Ouais. Bah, tout comme Bobby Lashley versus Zack Ryder.
Oui, alors ça aussi.
Qu'est-ce que ça foutait sur ma télé? Je me suis dit, oh putain, je me suis gouré, j'ai pas téléchargé le bon fichier. Lashley qui a roulé sur Zack Ryder, voilà, en moins de 2 minutes. Un squash ouais. Délicieux.
Délicieux. Ouais, c'est pas. J'imagine que c'est parce que il va falloir lui trouver un match au garçon, mais du coup c'est bizarre de pas commencer quelque chose aussi. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment. Ça, c'est des segments, tu vois. Là, c'est les deux dont tu parles. Je me demande vraiment à quelle période de l'année on est, quoi. J'ai vraiment pas le sentiment que WrestleMania c'est dans 4 semaines.
Je sais pas. Attends, je vérifie la date.
Ouais, t'as raison, on va vérifier.
Pas le con quand même. Mais on est d'accord. On est d'accord qu'effectivement. Alors après, voilà, c'est pour nous montrer. Ça, c'est des mecs. Est-ce que soit Bobby Lashley, c'est pour le placer dans une espèce de six time, enfin toi, un match à 6 pour le titre?
Ah, c'est possible. Ouais, et encore,
il est tellement loin. Les choses se construisent en parlant de ces mecs-là.
Bah, donc, oui.
C'est juste, ce mec-là, il va gagner la bataille royale ou un truc à la con, toi. C'est juste pour montrer les hommes forts de la André the Giant Battle Royale, voilà. Mais c'est vrai que bon, que ça fout sur notre écran, j'en sais rien. Un squash un peu plus à propos, avec peut-être un peu plus d'esprit et quelque chose en tête, c'était celui qui a suivi, puisque Drew McIntyre a disposé d'Eric Rowan.
Tout de même.
Quand même, hein, le fan de métal s'est couché au bout de 2 minutes. Au passage, Drew McIntyre a détruit la cage qui contenait l'araignée mécanique en peluche d'Eric Rowan.
Comment ça,
mécanique? Dans une ovation incroyable.
Ah oui, là, le public
la
était content.
Était en délire.
Ouais. Non, mais quand on connaît tous les problèmes sanitaires du moment, il nous a débarrassé d'un sacré problème quand même, là. Oui.
Ah bah ouais, parce que tu vas te faire mordre. Bah, d'ailleurs, tous les mecs qui se sont fait mordre là, dans les dernières semaines.
On les voit plus, hein.
On les voit plus. Donc, c'est peut-être
Noé Rosé est à l'hosto, là. Ouais.
Noé Rosé, il est effectivement en quarantaine avec Raphaël. Voilà, dans la Congo Line.
Dans la Congo Line.
bon, voilà, Drew McIntyre toujours aussi over. Et puis, une bonne utilisation du grand gaillard, la Rowan. Parce que, mine de rien, bah, Drew McIntyre, il va falloir un petit peu l'occuper les 2-3 semaines qui arrivent, là. Donc, bon, bah, simple et efficace.
C'est ça, simple et efficace. C'est pas l'heure pour Drew McIntyre d'écraser des moucherons. Il faut qu'il s'envoie du gros mastif, là. Donc, c'est bien. Il a éclaté Eric Rowan, qui jouissait d'une crédibilité, bon, modeste, hein, mais somme toute, quand même, qui a le mérite d'exister. Donc, écoute, c'est un squash qui était nettement plus opportun, en effet.
AJ Styles est énervé. Il est énervé parce que Undertaker se mêle encore de ses affaires, hein, par deux fois. Déjà qu'il lui a volé sous le nez, je sais que ça a été ton top en Arabie Saoudite.
Fantastique, fantastique.
Le trophée de la montagne de Tuwek.
De la montagne sacrée, la montagne jaune qui parle. Je sais pas.
Oh, approchez, mes fidèles. Et en plus, il lui a coûté son match.
Attends.
Face à Aleister Black. Non, mais tu vois pas. Aleister Black, qui était en mode Super Saiyan, puisque Aleister Black s'est tout simplement métamorphosé en Undertaker, hein, lors de ce match.
C'est quand même fort.
Ou alors c'était l'inverse. Taker était déguisé en Aleister Black depuis. Il y a deux théories sur Internet. Ouais. Ça divise Reddit à l'heure actuelle. Il y a deux.
Écoute, on n'a jamais vu les deux dans la même pièce au même moment. C'est vrai.
Ouais, les seuls qu'on a vus.
Non, mais pensez,
la même pièce, c'est Noé Rosé et Raphaël. C'est les seuls. Hein. Mais
ça,
sinon,
c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Et ils sont juste à côté, là, dans la salle vitrée. Là. Voilà. Ouais, salut, les gars.
Ouais. C'est bien, ces vitres sans teint, là. Ils voient pas. Donc, et puis là, la promo qui fait débat dans le Discord, même dans le Discord de Catch-Up, ça fait débat. Et AJ Styles qui nous explique que Taker a perdu contre Roman Reigns il y a 3 ans. On se souvient tous de cette belle image fantastique où il a abandonné son chapeau. Je me souviens, on l'avait vu ensemble, je crois, ce WrestleMania avec l'équipe du Catch.
Ouais,
il avait déposé son chapeau. Fait un petit son costume au milieu du ring. Il avait même fait un petit bisou à Michel. Il était parti. Il était redevenu un homme, abandonnant toute sa mystique au vestiaire. C'était beau. Le chapeau avait disparu, je crois, en plus, après un éclair. C'était une image puissante, magnifique. Et AJ Styles nous le raconte comme il l'a vécu, tel un fan. Et puis, Taker, En fait, plus, on va dire que les heels disent des vérités. On a été plusieurs, beaucoup de gens ont reproché à Taker d'être revenu et d'avoir un petit peu gâché ce moment. Il n'a pas pu s'arrêter. Hein. Il y a beaucoup d'accros, on en verra un autre un peu plus tard, au catch, qui ne savent pas s'arrêter. Et il est revenu, il a tout gâché. AJ Styles lui lance un défi pour Mania. Il y a 10 ou 15 ans, AJ Styles, il est chocotte du Taker. Il est chocotte.
Ah oui.
Un monstre mystique avec des super pouvoirs, des rayons laser qui enterraient les gens, qui revenaient à la vie. Il y avait vraiment, effectivement, c'était une autre époque. Hein, c'était une époque un petit peu plus fantastique, on va dire.
C'était avant Internet, ça.
Ouais, c'était avant Internet. Il y avait X-Files, voilà. Il y avait... tout ça, on y croyait. Maintenant, c'est que de la fake news. Tout le monde, voilà. On est dans le monde du réel. Il n'y a plus de fun. C'est no fun. No fun allowed. Et surtout, voilà, quelque chose qui a fait grincer des dents, AJ Styles nous a expliqué que le Taker n'était devenu plus c'est un homme brisé, un homme connu sous le nom de Mark Calloway. Donc on brise le kayfabe, on balance les noms, les adresses des catcheurs.
Le Twitter, l'Instagram.
On les swat en direct pendant leur live. Et ça cause, alors, Moi, c'est presque le truc qui me fait le plus chier dans cette histoire, puisque il nous explique AJ Styles à la manière d'un autre catcheur il y a une semaine, que tout ça, c'est à cause de sa femme, Michelle McCool, qui, grosso modo, l'a un petit peu ensorcelé, et que du coup, c'est à cause d'elle qu'il est toujours là. Et que du coup, la femme du Taker, Michelle, va l'entraîner dans les profondeurs du monde et que lui va l'aider. Et il s'assurera même qu'il va tuer le Taker. Il va s'assurer que le Taker meurt sur le ring à Mania du coronavirus, qui va prendre son âme et repartir avec. Tout ça va probablement se terminer dans un casquette match. Donc un match du cercueil, vu comment la promo a un petit peu tourné. Et surtout, on aura une signature de contrat la semaine prochaine qui a été officialisée.
Qu'est-ce que tu as ? Ça aussi, je suis très surpris de la signature de contrat, mais ok.
Ouais.
C'est bien la première fois, je pense, que le Taker signe, fait une signature de contrat.
Et qu'est-ce qu'il va signer, du coup ? Taker ou Callaway ?
Ah bah, tiens, bonne question. Oui, c'est vrai, ça.
Bon, ouais, alors, toi, tu fais partie de ceux qui ont un petit peu grincé des dents, il me semble.
Ah ouais, alors, c'est plus grincé des dents, j'ai détesté la promo.
J'ai vomi.
J'ai vomi. Non, je trouve que c'est... En fait, je suis vraiment très, très déçu et très, très surpris qu'un mec comme AJ Styles, qui est un patron du business vraiment depuis des années, ait pu accepter de faire une promo comme ça, et que même que le Taker aussi ait pu accepter d'être impliqué dans un truc comme ça, je trouve que c'est nul. Toutes les promos qui visent à casser le kayfabe, à montrer les coulisses, ça fait peut-être marrer tous les mecs qui sont tout cool, trop cool pour comprendre que c'est du spectacle et tout, ok, mais en fait je trouve que ça détruit vraiment tout l'intérêt même du catch. En fait, c'est pas honteux, même encore aujourd'hui avec toutes les rumeurs et tout ce qu'on sait, il y a rien de honteux à faire comme si. À continuer à faire semblant, à continuer à jouer le jeu, à continuer à garder les rideaux fermés. C'est le principe, c'est l'essence même du catch, en fait, hein, de maintenir le kayfabe en toutes circonstances. Sinon, il n'y a plus aucune raison à regarder un spectacle où des mecs se tapent pour de faux et jouent la comédie dans des matchs prédéterminés. Tu ne peux pas, en fait, c'est juste l'inverse de tout ce qu'il faut faire. Et je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a eu quelques débats sur le Discord là-dessus, et Raphaël d'ailleurs avait fait un parallèle que je trouve assez juste, où on peut accepter, tu vois, par exemple, quand c'est pas des gimmicks à part entière comme l'Undertaker, tu vois, quand c'est en effet il a mentionné l'exemple de Triple H et Batista qui du coup ah putain là c'est sérieux, cette fois c'est Paul et Dave qui vont se taper dessus, c'est pas Triple H et Batista. Bon, parce que c'est pas vraiment des personnages à part entière comme l'Undertaker. Ça reste, c'est plus, ils ont plus des noms de scène que vraiment des gimmicks à proprement parler,
ouais,
ces mecs-là.
Comme je disais, c'est comme des artistes qui ont des surnoms, voilà. Des rappeurs. Ou, voilà,
c'est ça, exactement. C'est comme si un rappeur, en effet, utilisait le vrai nom civil d'un autre pour le trasher. J'ai pas trop de problèmes, même si je trouve qu'on flirte encore avec la limite qui est propre un peu de plus en plus à l'époque actuelle, qui fait que... voilà, maintenant, dès qu'on veut faire une feud sérieuse, on n'a plus aucune autre inspiration que de dire « Ok, là, cette fois, je suis vénère. Là, c'est pour de vrai. Maintenant, je vais t'appeler par ton prénom et je vais te défoncer. » Genre, ça veut dire quoi ? Ça veut
ouais,
dire
c'est genre, on arrête de faire semblant parce que...
Ouais, c'est ça. C'est...
Si on fait semblant.
Voilà, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'était du mytho. Et tous les autres matchs de la carte, c'est du mytho, en fait. C'est quoi le délire ? Donc déjà, je trouve que c'est très limite. Mais alors là, on passe à un stade au-dessus parce que l'Undertaker, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est vraiment un personnage, c'est une mystique, c'est un truc. Tu casses tout quand tu l'appelles par son vrai nom, quand tu dis qu'il est marié à Michelle McCool, que tu... C'est débile. Qu'est-ce que tu essayes de prouver Donc en fait, voilà. Maintenant, on a cassé le truc. Donc il va pas affronter l'Undertaker, il va affronter le mec qui joue l'Undertaker. Donc super, très intéressant. Et puis, en fait, je déteste ces promos pour tout ce que je viens d'expliquer, parce que je vois pas le délire de vouloir déconstruire tout le décorum qui fait le charme de ce qu'on commande chaque semaine, en fait. Donc je trouvais que cette promo était juste nulle à chier, et je n'ai déjà quasiment plus aucun intérêt dans ce match, puisque j'ai absolument pas envie de voir Mark Calloway affronter AJ Styles. Moi, j'ai envie de voir L'Undertaker affronte AJ Styles et qu'il fasse son entrée, qu'il envoie des éclairs et que ce soit comme quand j'étais gamin et voilà. Enfin, amusez-vous, mais ce sera pas avec moi là.
Est-ce que du coup, effectivement, la promo commençait plutôt bien, moi j'ai trouvé, toi, où effectivement il expliquait concrètement, historiquement, ça y est, Taker, t'as perdu, tu tirais ton chapeau et finalement tu reviens et ça, c'était plutôt pas mal. Ils auraient
pu. Oui, ça, c'était très bien, ça.
T'arrêtais là, hein, grosso modo. Jessa lui dit, mais en fait, t'es un fantôme de ce que t'étais avant, mais t'as tout perdu et ça pouvait suffire. Effectivement, on est monté très rapidement. C'était assez inutile, c'est vrai. On n'était pas encore à un stade à la limite. Et encore, toi, tu serais contre, mais tu pourrais comprendre ce genre d'approche si vraiment on partait dans un délire de deux mecs qui se sont connus pendant des années, j'en sais rien.
Oui, en plus.
Soit un Triple H ou j'en sais rien.
Et puis en plus, c'est la première fois qu'ils se croisent, AJ Styles. C'est pas un nobody à la WWE, je vais pas insulter non plus, mais il a clairement pas la place dans l'histoire qu'a l'Undertaker et ils ont jamais eu un match, jamais une interaction, rien. Le mec, ça y est, il commence à balancer des pipe bombes entre guillemets, genre sur le Taker, comme s'ils avaient une histoire de 15 ans. Ouais. Ça va, quoi.
Ouais. Et puis moi, ce qui m'a pas plu, c'est... Voilà, je trouve que ça ressemble vachement avec... c'est la même... C'est le même argumentaire qu'utilise en plus Randy Orton pour sa rivalité avec Edge. Je déteste que t'as un peu des doublons comme ça. Là. Qu'est-ce qu'il ramène à Michel McCool ? On s'en fout. Enfin, genre, c'est Michel McCool qui œuvre.
Rien à foutre. Super, ça veut dire qu'elle va être à WrestleMania, qu'il va y avoir un spot avec Michel McCool, machin. Et ça se trouve, Michel McCool va monter sur le ring, qui va faire un Styles Clash à AJ Styles, c'est probable. Pas un Styles Clash, du coup, je sais plus comment elle appelait son finisher d'ailleurs, parce que c'est le même.
Ouais.
Bref. C'est probablement d'ailleurs ce qui va se passer, c'est la version non kayfabe et nulle à chier j'ai l'impression, de la rivalité avec CM Punk à l'époque, où justement il était allé taper dans ce que faisait la mystique du Taker, mais en conservant le kayfabe. Il s'était grimé en Paul Bearer, il avait piqué l'urne, il l'avait vidé pour se moquer un petit peu du personnage de la mystique du Taker, mais pas en la dénigrant, mais pas en cassant le truc, juste en s'en servant pour se moquer de lui. Là, il s'en sert pour détruire carrément le personnage et je comprends pas trop.
Non, effectivement. J'ai pas vomi en voyant la promo, mais c'est vrai qu'en digérant un petit peu, je la comprends pas. C'est vrai que je vois pas ce que ça apporte, en fait. Toi, je me suis pas dit qu'il a balancé son nom en disant Mark Calloway, je suis pas là genre ah ouais, ça devient sérieux. Je me suis dit tiens, je trouvais ça bizarre, quoi. Qu'est-ce qui se passe?
Alors tout le public c'était pas Philadelphie d'ailleurs, je sais plus. Tout le public qui fait ouh, genre ah putain, il a dit son vrai nom et tout, waouh, c'est la folie, parce que nous on connaît, parce qu'on est allé sur internet, on connaît son vrai nom et tout, ouais, et putain, on s'en fout. Enfin, on s'en fout.
Bon, écoute, on va bien voir un carton rouge, j'ai l'impression, là, de la part de...
Gros carton rouge, ouais.
Aïe, 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 peut-être spoiler le flop. on laisse là, AJ Styles, le Taker, puisque de toute façon, la semaine prochaine, et ça va te faire plaisir, le Taker va venir signer un contrat.
Ouais.
Il va arriver en chemise, costume.
Ouais, autant y aller à fond, les gars. Hein. Ouais, qui viennent en chandales.
Ouais, c'est ça.
Qui viennent avec sa femme et ses enfants. Ils ont des enfants ou pas, je sais pas.
J'imagine. Ils vont nous sortir toute la famille.
Allez, les photos de famille et tout. Ouais, c'est bon. Hein.
Il va avoir le sourire, la banane. Il va être bronzé.
Qui fasse son petit discours d'acceptation du Hall of Fame en même temps. Comme ça, on n'en parle plus. C'est réglé.
On en est où? Riddick Moss a battu Cedric Alexander en 2020.
Il continue.
Voilà. Riddick Moss, 24/7. Il renvoie tous les jobbers à Main Event. J'ai l'impression.
Ouais.
C'est un peu le The Fiend du 24/7. C'est-à-dire, chaque fois que tu croises la route de Riddick Moss, tu es renvoyé dans les profondeurs de toi-même et on ne te revoit plus jamais vraiment.
Surprenant quand même. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Riddick Moss, mais je ne sais pas quel... Il a un petit coup de chaud en ce moment. Mais
Tant
mieux pour lui. Je ne sais pas non plus trop ce que ça fout sur ma télé, mais ok.
Ouais, parce que le mec, il a carrément hacké le concept même du 24-7, au passage.
Ouais, parce que maintenant, il fait des matchs pour le titre.
Voilà, genre, c'est devenu une ceinture quaternaire, quoi. Voilà. C'est devenu une ceinture, une vraie ceinture, ouais. Je veux dire, que tu défends.
C'est devenu le TV Championship ouais, de l'époque.
Ouais, c'est exactement. Donc, j'aimerais bien, à la limite, pourquoi pas pendant un an, Riddick Moss qui bat tout le monde pendant un an. Tous les jobbers. Voilà, ça pourrait être ça.
Écoute, ouais. Moi, il a battu Ricochet, ça me va.
Mission accomplie. MVP, t'es là. Alors, je ne sais pas s'il a commencé à parler pendant la pub. MVP, qui est toujours très bon au micro. Hein. Il veut construire très une fort. Nouvelle faction avec des petits jeunes, enfin des petits jeunes, des gens qui va pousser, parce qu'il va pouvoir guider, voilà, accompagner à s'accomplir. Il a un gars en tête. Il dit, bah, il pense à qui ? Bah, il pense à Edge. Il veut construire une nouvelle faction autour de Edge pour...
Pas con, le mec.
Bah, je sais pas, vu ce qui s'est passé, il a peut-être pas cité.
Mais il aurait pu construire autour de Riddick Moss, il a l'air en forme.
Ben bah, oui,
pas,
c'est
il
vrai.
A pas,
c'est...
Il a pas voulu. Bon,
quoi. Peut-être qu'il va se rabattre sur Riddick Moss.
Ouais, après, c'est son deuxième choix. C'est peut-être son deuxième choix.
Edge est là. Edge arrive à ce moment-là dans sa voiture. C'était annoncé. Il arrive, il est dans la bagnole. Il arrive sur le ring. Il prend le micro de MVP ou il prend un deuxième micro et puis il interpelle Orton parce qu'il est venu là pour choper et péter la gueule à Orton. Vas-y, ramène ton petit cul. MVP fait ouh, je suis là, m'oublie pas. Tu sais, voilà, c'est ça ton problème, Edge, c'est que t'es pas concentré sur les choses importantes. T'es concentré sur les choses qui va pas, qui servent à rien, comme ta femme. Donc, quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors, Edge, il devient fou, il est sur ce. C'est... les yeux qui vont sortir des orbites, quoi, les globes oculaires qui sont immenses, et il le spire. Il spire MVP, et Orton en profite. Il était caché sous le ring, le gredin. Donc, on pensait qu'il était caché dans la cave pendant tout l'épisode. Et en fait, il était caché sur le ring. Orton attaque
Edge. Il est bien attendu, hein.
Oh la vache, putain. Je me demande toujours s'il n'y a pas des trappes, quand même, parce que, putain, les mecs.
Ouais, c'est fou, hein. Non, mais il y a forcément des trappes, c'est pas possible. Il n'a pas pu faire tout le show. Enfin, après, pendant les coupures pub, pour avoir vu des shows en live maintenant.
Il se passe beaucoup de choses.
À la WWE, on sait, mais tu sais, il coupe un peu les lumières pendant les promos.
Ouais, ouais.
Pendant les promos sur l'écran aussi, ce qu'on ne voit pas, c'est que dans l'arène, les lumières sont éteintes pour que les gens regardent l'écran. Je pense qu'il profite de ces moments-là pour faire venir...
Ouais, pendant les pubs, qui ne sont pas pendant des matchs, effectivement, il plonge la salle dans le noir, il balance une grosse promo musique à fond pour bien attirer les regards sur les écrans.
Ouais,
tu ne fais plus attention à ce qui se passe. Là, ça s'agite dans tous les sens. Pour peu que tu aies un mec qui arrive avec un chariot, il pousse le chariot à côté du ring, le mec, il monte dans le petit chariot, et puis voilà,
et il repart
avec... Livraison de Orton, livraison
Amazon Prime.
et Edge qui place tout simplement un RKO sur Orton. Eh ouais, Orton est ici, attendez pas, il comprend pas, il se barre, et c'est MVP qui va déguster, puisque Edge va détruire tout simplement la tête de MVP, de la même façon qu'Orton avait détruit Matt Hardy, qui est parti à la AEW.
Ah, c'est officiel ?
Bah, il me semble.
Ah bah écoute.
J'ai vu une vidéo, je crois, de lui avec les jumeaux diaboliques. Les
félicitations.
Diaboliques. Ouais, félicitations, exactement. Bref, toujours est-il. C'est ça. Il va se mettre bien pour construire une nouvelle piscine dans le Matt Hardy, le Hardy Compound.
Enfin, je dis ça, mais non, c'est sans doute pour la passion du catch, du vrai catch.
Ce n'est pas incompatible. Tu le sais tout comme moi.
C'est vrai.
MVP, donc, qui est détruit par Edge, qui lui place en plus un RKO sur la chaise, et puis la fameuse
concerto.
Deux fois. Et donc voilà, Orton qui, enfin plutôt Edge, qui a mis la main sur Orton, mais il va pas choper de micro. Hein. Il n'aura pas parlé, je crois.
Non, il était trop fou furieux là. Ouais.
Ouais, si, il cherche Edge un peu plus tard, mais on lui apprendra que Orton a quitté l'enceinte. Il est rentré chez lui, profiter de sa famille, de ses enfants. Et surtout, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on a eu un putain de package vidéo
pour
retracer cette rivalité sur les dernières semaines. Et moi, j'avais la gorge nouée parce que c'était franchement super bien écrit avec des petites images d'archives. Orton, quand il est arrivé, était tout jeune, il avait des boutons sur le visage, leur première équipe, et puis bah, tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. encore une fois, là, je tire mon chapeau. C'est ceux qui font du meilleur taf à WWE, à part les catcheurs, c'est vraiment les
monteurs vidéo.
Qui font les packages. La Real est à chier. Franchement, honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, la Real, mais il y a plein de spots qui sont loupés.
C'est vrai que c'est un peu compliqué.
Les pay-per-view, les weeklies. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'ils filment tout le temps. Quand il y a un spot qui arrive, ils ont tendance à filmer de dos.
Ouais.
Ils filment souvent de dos. Si un mec monte sur le turnbuckle, ils vont filmer le mec qui est sur le ring de dos. Et du coup, tu vois jamais plus, tu vois plus les impacts, en fait.
Non, c'est vrai, je suis assez d'accord.
Je comprends pas. Est-ce que c'est les mecs qui ont juste pas confiance et pour éviter de filmer un truc qui serait
pour
mal
éviter
exécuté.
De filmer un botch, je sais
ouais,
pas.
Mais au final, tu perds tout l'impact. Franchement, je sais pas si c'est parce que je fais plus attention à ça qu'avant, mais.
Non, mais j'ai remarqué aussi, ouais, c'est vrai.
Le nombre de grosses, même des gros spots que tu loupes alors que tu les vois arriver à 1000 km. Bref, c'est pour dire qu'on a eu un super package vidéo. Edge a pu avoir le début de sa vengeance. Et qu'est-ce qu'on a pensé jusqu'à là?
Oh, c'était top. On attendait le retour de Edge à Raw. On attendait l'explosion de rage là, de Edge. La prochaine, je pense que la semaine prochaine, la promo, parce qu'il va forcément poursuivre ce segment, il va y avoir une promo de Edge qui va demander des explications, cut de bullshit, vient, parce qu'il, enfin, c'est ce qu'il a commencé à faire. Hein, il a dit, quand il est arrivé, il a ignoré MVP et puis il a pris le micro, il a dit grow a pair et come face me, là, c'est porte tes couilles là et viens. Tu sentais qu'il en avait gros. Et donc là, ouais, quand ils vont commencer à s'expliquer vraiment et que Orton va déballer son sac comme il l'a fait devant Beth Phoenix, là. Ça va être quelque chose, ça, plus le package vidéo, plus l'acting de Edge qui pique le RKO en plus, qui est complètement fou. C'est top. C'est de la feu de Made in WrestleMania par excellence. C'est des mecs, ça s'écrit tellement tout seul. C'est là où c'est vrai que la WWE a... Enfin, c'est presque trop facile pour eux parce que c'est ça aussi d'avoir... 30 ans, 40 ans d'archives vidéo, et là en l'occurrence, enfin voilà, 20 ans presque de rivalité entre les deux hommes, c'est que, limite après, c'est simple quoi. T'as plus qu'à piocher, à faire un truc magnifique, et puis de laisser deux super professionnels raconter le reste au micro et à bien jouer le truc, et ça roule quoi. Donc là, c'est la fête de gala de WrestleMania, clairement, j'adore. Et j'ai très très hâte de voir les deux s'écharper au micro avant de se détruire dans le ring à WrestleMania.
Ouais, moi je suis vraiment embarqué. C'est vraiment, je trouve, probablement l'histoire la mieux écrite, la plus intense quoi, à l'approche de WrestleMania. Ça, c'est une vraie affiche de WrestleMania avec de l'intensité. Alors évidemment, ils ont toute l'histoire derrière eux, c'est des vétérans et tout, mais ils sont c'est super bien écrit, mettre les petits plats dans les grands. Et c'est vrai que Edge, ils l'ont fait bien poireauter avant qu'il revienne, mine de rien.
Ah ouais, ils nous ont fait bien fait mariner, mais du coup, ça rend, c'est vrai, son retour et son explosion encore plus forte, quoi.
Ouais. Entre-temps, on arrive au main event. Il s'est passé, tu me dis, si j'ai oublié des choses, mais il s'est passé deux, trois trucs backstage avant. Aleister Black a croisé le chemin de Seth Rollins, qui veut un petit peu l'embrigader, lui dire « Vas-y, rejoins le côté obscur de la force ». L'autre lui dit, mais attends, tu utilises des mots de bagarre là, tu me provoques, t'as toqué à la porte ou quoi? Hein, c'est ça, t'as toqué à ma porte, allez, moi j'accepte ton défi. Du coup, on a un match entre Black et Seth Rollins.
Susceptible, hein, ce Black.
Ouais. Oh ouais, t'en peux rien lui dire, le mec, quoi.
Ouais,
genre,
ça te dirait de toi. Il dirait que tu toques à sa porte, quoi.
Il veut chiller, il dit, ah, vas-y, tu veux passer la petite soirée avec nous, tranquille. Fais quoi, vas-y, quoi, vas-y, cherche la bagarre, la bagarre. Cherche un bagarre. Attends, le manouche. du coup, on se retrouve avec un match Rollins Black qui va pas durer, enfin, qui ne va pas aller jusqu'au bout puisque Buddy Murphy provoque une disqualification. Et après, alors, tout ça, ça a duré quand même une grosse demi-heure. Hein,
oui.
Main event, c'était assez long. On a un gros beatdown puisque AOP se joint à la fête. Puis les Viking Raiders, je ne savais pas.
Ils sont de retour.
Ouais, voilà, qui viennent après avoir occupé les pré-shows, viennent à la rescousse d'Aleister Black. Et les Street Profits qui débarquent aussi, parce que eux au moins ils avaient eu encore une petite rivalité encore avec Rollins et Murphy. Tout ça se transforme évidemment en
4 contre 4.
4 contre 4, exactement, j'étais en train de compter, ils étaient 8 en tout.
Ouais, ouais, parce que Alistair Black, du coup, lui, il reste out. Je pense qu'il...
Ah, t'as raison. Ah bah oui, ouais. Oui, t'es plus là. Ouais, bah oui, il s'est fait quand même tabasser, après tout. Ah, je me souviens que quoi, il s'était fait bousculer là, il y a 2-3 semaines, il avait vendu la blessure pendant tout l'épisode, oh en mode au bout de ma vie. Donc, c'est un goat fragile.
Voilà. Oui.
Alistair Black. Un match qui a duré 25 minutes, quoi. 25 ouais. minutes. Mais un match, quand même, j'avoue, assez bien rythmé, avec pas mal de bonnes séquences. Et à la fin, je sais pas si c'est pas tout de suite qu'il. Non, c'est pas, tout... c'est pas pendant le match qu'il est arrivé.
Kevin Owens. Quand est-ce qu'il est arrivé ? J'ai un peu perdu le fil de ce truc-là, je ne sais plus. Je sais
non,
plus
c'est si post-match.
A... Je crois qu'il arrive à la fin, ouais, mais ouais. Enfin, il arrive après. Parce que le match se termine normalement, je crois. Mais...
Ouais, ouais. Donc, on a un match entre tous ces gens-là. Et à la fin, Black Mass, enfin, hein, voilà, le Curb Stomp de... Pas Black Mass, justement, le Curb Stomp de Rollins sur...
Sur Ford,
Montez Ford. Qui était toujours aussi excité. Donc, on a eu un gros match. Je ne vous fais pas tout le play-by-play parce que on a eu, c'est étrange. On n'a plus trop l'habitude d'avoir des matchs de 25 minutes en main event.
Non.
De Dun Weekly. C'était plutôt bien rythmé, mais c'était assez étrange. Et surtout, on a eu un angle après post-match avec Kevin Owens qui a distribué des stunners, mais qui, au final, s'est fait allonger par Seth Rollins. Qui lui a placé trois curbstorms. Hein. Je sais plus s'ils appellent ça toujours curbstorm. Oui, je pense.
Blackout ou curbstorm.
Blackout ou curbstorm, ouais. Ça dépend si c'est semaine pair ou impair. Et du coup, les méchants qui restent forts à la fin. Les méchants qui restent forts, malgré Kevin Owens qui est intervenu. C'est un peu c'est le bordel. Ça. C'est un peu le bordel. Mais bon.
Ouais, c'est un peu le bordel. Ouais, je sais pas, c'est...
Moi, ce qui me fait chier, c'est Kevin Owens, qui a presque un rôle de second... Enfin, second rôle dans cette rivalité. C'est un peu...
Ouais, alors, il est partout et nulle part à la fois. C'est vrai qu'il... Voilà, donc il est intervenu. Il est intervenu à l'Elimination Chamber. Il est encore intervenu après, là, ce soir, pour mener... Bon, voilà, tu sens quand même que c'est toujours la même chose. Hein. Il vient pour faire chier Seth Rollins, en toutes circonstances. On ne sait pas. Est-ce que ça va ? Alors, on a déjà eu cette discussion il y a 3 ou 4 semaines. Qu'est-ce qui va se passer ? Quel est le endgame un peu hein, de cette rivalité ? Est-ce que ça va être Seth Rollins contre Kevin Owens à WrestleMania ? Je trouve que ça serait vachement plat comme affiche après tout ce qui s'est passé. Mais bon, en même temps, toutes les combinaisons ont déjà été faites. Là, d'ailleurs, j'avais un peu l'impression qu'on sortait de ce schéma-là. Et finalement, j'ai le sentiment qu'on a fait un pas en avant, deux pas en arrière, parce qu'on est revenu. Bah, on est revenu sur des main events multi-man, un peu random, où voilà, on a remis. On a remis les Viking Raiders parce qu'il fallait faire un peu du nombre et que Samoa Joe n'est plus là. Et donc on a refait voilà un 4 contre 4, un peu bordel, les Street Profits qui viennent, alors que bon, soit ils ont gagné les ceintures, ils n'avaient pas trop de raison d'être là.
Ouais,
et
puis, ouais.
Donc en fait c'est voilà on est revenu dans un schéma où c'est Seth Rollins et ses copains personne les aime, ils font chier, mais en même temps ils ont plus de ceinture, donc ils ont plus vraiment de raison, on va dire, d'être un peu chassés par les gentils, quoi. Là c'est limite eux qui se font provoquer par Aleister Black sans aucune raison en coulisses, mais ils sont dans, c'est vrai que dans mon esprit, ils sont presque devenus un peu inoffensifs, quoi. Seth Rollins, Murphy et Hopi qu'on voit plus. Le fait qu'ils aient perdu ces ceintures à Elimination Chamber fait que ils ont plus trop de cibles dans leur dos, quoi, comme ils disent là, ils ont plus de target. Donc je suis un peu perplexe sur ce truc. Enfin, c'est pas perplexe, je suis même pas très intéressé par ce qui se passe. Et je vois pas où ils veulent aller aussi.
Je crois qu'on a vraiment perdu, tu le dis, hein, tu l'as dit, on recule en arrière, on a perdu en intensité en fait, alors que pendant ça a duré des mois, mais toi, à toute l'époque, avec Samoa Joe, c'était intense, il y avait des gros spots, je me souviens encore de Kevin Owens qui court sur la rampe, enfin, voilà, on avait vraiment des... Ça passait à travers les tables des commentateurs, ça se mettait vraiment bien sur la gueule, ça s'attaquait backstage, il y avait de la stratégie, genre « Ah, t'es là, non, attends, nous, on va... » Vous êtes où ?»
Ouais, il y avait un peu des jeux... fil rouge pendant l'émission. Il y a même des idées intéressantes où tu te dis, tiens, il y aurait pu y avoir des virages sympas à prendre scénaristiques, là, quand il y a eu le coup de l'arbitre qui était
ça s'était jeté aux oubliettes, cette
connerie. Qui était membre du culte. Tu te dis, putain, ça aurait été rigolo qu'il commence à y avoir des convertis un peu, des trucs.
Exactement.
Et puis, finalement, on est revenu une sorte de statu quo où tout le monde se tape en main event d'Euro et puis la semaine prochaine, hein, les gars. C'est un peu ça.
Ouais, et tout ça. En fait, et c'est dommage, on arrive à WrestleMania, c'est une rivalité qui est construite depuis plusieurs mois maintenant. On arrive à WrestleMania et WrestleMania devrait être le chapitre final de cette grosse rivalité, toi. Et quitte à. Peu importe l'issue, mais on avait quand même Seth Rollins qui validait son heel turn, qui construisait une nouvelle faction, qui arrivait à enrouler un arbitre. Donc il y avait effectivement une storyline où là, je commençais à m'ambiancer en mode « Ah ouais, en fait, personne va être à l'abri parce qu'en fait, il y avoir tout un culte qui va se construire autour de Seth Rollins et chaque semaine, ils seront de plus en plus nombreux comme les infectés du coronavirus. » Et ça tombe bien en plus, ils pouvaient même faire des promos en disant « Voilà, je suis plus fort que le coronavirus, j'en sais rien, toi, genre tout le monde j'ai de plus en plus de disciples chaque jour. » Et en fait, tout ça, comme tu dis, on a réduit ça à sa plus simple expression où en fait, c'est juste des mecs qui se mettent sur la tronche parce qu'ils s'apprécient pas. Alors qu'on avait angle de prêcheur, quoi, qui enrôlait des mecs autour de lui, avec face à lui un héros, quoi, qui était là pour le contrer, en l'occurrence Kevin Owens. Et même Kevin Owens s'est effacé, là il agit comme s'il avait été banni de la WWE. On se rappelle encore, il y a pas si longtemps que ça, où il doit acheter ses tickets pour venir et il attend la fin du show pour placer un stunner. Il y a 6 mois, il faisait déjà ça, toi, donc... je suis là, je me dis, à 4 semaines de WrestleMania, là, qu'est-ce qui va se passer? Et ça va se transformer en espèce de match. Enfin, toi, un milieu d'histoire, un peu creux, quoi.
Si au final, c'est Seth Rollins contre Kevin Owens à WrestleMania, ce sera de la mid-card très, très, très tiédasse. Hein. Ce sera sans doute le 6e ou 7e match sur l'affiche.
Moi j'aurais voulu Kevin Owens qui se donne une mission, c'est de faire tomber ce mec, ce prêcheur, ce leader de culte, et de briser, toi, cette nouvelle religion là qu'il est en train de monter, et de le faire devant tout le monde dans la plus grande messe du catch. Toi. En plus, c'est tout un vocabulaire.
Il y a tout un vocabulaire, ouais, exactement. Non, mais t'as raison. Et puis c'est vrai que, parce que là aujourd'hui le culte, je pense qu'il y avait pas mal de trucs à faire, mais au final. Le culte, il est un peu stagnant, quoi. Enfin, ils sont toujours 4. AOP, on les sort du formol de temps en temps.
Ouais, on les voit même plus.
Alors que franchement, c'est dommage. Il y avait quand même bien mieux à faire. Seth Rollins et Murphy, ils ont perdu leur ceinture. Ils parlent un peu dans le vent, quoi.
Ils sont déjà pas sur leur pente descendante, toi.
Ils sont déjà en pente descendante, alors qu'on arrive à WrestleMania. Donc c'est vrai que c'est pas des méchants très... très menaçant, quoi, je trouve. Et je regrette vraiment que, tu vois, a posteriori, que ce soit pas finalement AOP qui ait eu les ceintures. Que les Street Profits, peut-être, ce soit Street Profits contre AOP à WrestleMania pour une prise de titre. Et que pour le coup, que ce soit un peu une sorte de guerre, de méta-guerre un peu sur toute la carte où tu as. Les Street Profits qui auraient chopé les titres d'AOP, t'aurais eu Kevin Owens contre Seth Rollins, t'aurais eu, Murphy contre Samoa Joe, ou je dis quoi. Mais que du coup, ça se passe un peu à tous les étages, parce que il aurait fallu, pendant des semaines, le culte, il se serait développé, ils auraient eu toute une emprise un peu sur le show, et qu'il aurait fallu s'y mettre à plusieurs, et à plusieurs matchs pour les démonter, mais là en fait ils sont déjà un petit peu morts, quoi, donc je sais pas trop, quoi.
Ouais. Bon, voilà, moi je suis dubitatif, je suis assez déçu parce que trop souvent, je trouve, c'est pas la première fois qu'ils nous font un peu le coup là, ils nous font monter un truc et puis le pétard mouillé un mois avant WrestleMania, genre ils font dans leur froc. C'est bien triste. Bon, c'est comme ça que c'est terminé ce show. C'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager, Giscard, s'il te plaît, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Eh ben écoute, bon alors mon flop, on revient pas dessus, hein, vous avez tous compris que c'est la promo d'AJ Styles qui est honteuse. Ce n'est pas mon catch. Voilà. Et mon top, bah c'est vrai, mon top, je l'aurais bien filé au package vidéo Orton Edge. Après, c'est vrai que c'est un top un peu spécial, c'est un top un peu bizarre. Alors, du coup, si je devais
moi, je
choisir,
le ferai, voilà, si je peux te spoiler.
Voilà, si je devais choisir vraiment un segment du show, et ben, je pense que je filerais ça à. En fait, dans les segments purs de show, bah, c'était pas extraordinaire. Peut-être, écoute ceci. Non, mais si, ce qui s'est passé après le package vidéo, à savoir l'arrivée de Edge et ses RKO très surprenants là sur Randy Orton et sur MVP, j'ai trouvé que c'était top. C'était vraiment le segment pour moi le plus chaud de l'émission et celui qui m'a fait le plus vibrer. Donc je vais donner mon top. Voilà, ce retour gagnant de Edge à Raw et aux choses sérieuses qui vont commencer. Et puis ma note, je vais donner la moyenne, je vais donner 2,5 à Raw, parce que j'ai eu l'impression que globalement, on avait réussi à peu près à se remettre sur les rails de WrestleMania avec les segments féminins notamment, et puis avec le segment de Edge et Orton, le segment de Drew McIntyre, enfin il y avait des choses qui te remettait un peu dans le mood WrestleMania après un Elimination qui était assez hors sujet pour moi. Mais par contre, après, bah voilà, on l'a dit, il y avait, je pense, la moitié de l'émission on se demandait vraiment si on n'était pas en octobre. Quoi. C'est,
octobre.
C'est... Non, mais c'est assez perturbant. J'ai vraiment pas l'impression d'être à 3 semaines de l'événement. Quand je vois Lashley squasher Zack Ryder, quand je vois... les Kabuki Warriors contre Natalia et Liv Morgan, quand je vois Riddick Moss encore défendre son titre 3 semaines de suite, quand je vois un main event sans inspiration comme ça, ouais. J'ai vraiment, vraiment pas l'impression que WrestleMania arrive, quoi. Donc, je suis même gentil avec 2,5, hein, je pense, mais bon, je vais te laisser donner ta note.
Moi, mon flop, pareil, je vais pas m'éterniser, bah, c'est ce main event et tout ce que ça traduit de cette gestion de la... ce que j'estimais être la vraie grosse storyline... Enfin, celle avec le plus de potentiel, je trouvais, en termes de divertissement et comme tu l'as dit,
grave.
Ramification sur un show. Moi, j'aime beaucoup, quoi. Voilà, il y a des fils rouges, quoi. Il se passe plein de choses, quoi. Voilà, des histoires empiètent sur, voilà, qu'il y a des vases communicants, en fait, hein, entre tous les niveaux, tous les étages, comme tu l'as dit. Mon top, bah moi je vais le donner au package vidéo parce que franchement ça m'a bien fait kiffer. Donc big up à la team de réalisateurs monteurs là qui chaque semaine nous régale. Hein. Franchement, ouais. On sait comment c'est, on va arriver à WrestleMania en mode ouais, ok, bof.
Ouais, et puis
à chaque fois ils vont nous balancer un package vidéo. On va être là, oh ouais.
Donc, franchement, même le triple threat du Riot Squad, ce serait avec un package vidéo.
Il faudrait, ça serait cool qu'ils nous fassent ça, genre même les trucs les plus pourris, ils nous fassent un package vidéo,
épique vois, de 15 minutes.
De 15 minutes sur Riot Squad et voir comment tu t'ambiances. Quoi. Ouais. Et ma note, bah écoute, moi c'est un peu pareil, j'ai pas trop kiffé en fait cet épisode, il était vraiment, j'ai trouvé assez moyen et il n'y a pas cette odeur de WrestleMania, ouais, bordel quoi. Franchement, à part 2-3, bah si, voilà, il y a Orton est là. Ouais. Le Taker AJ Styles, on y est sans y être, quoi. Il y a un peu des, voilà, on en fait presque trop, du coup. Et puis les filles, je suis pas encore super ambiancé, donc du coup, je vais mettre un 2,5 comme toi, en fait. Voilà.
Bah et, voilà. Allez. C'est moyen.
C'est moyen. On espère vraiment que les mecs vont se.
Concentrez-vous.
Voilà. Il faut plus planter des graines maintenant. Il faut faire monter la pression.
Non, faut y aller, hein.
Faut me faire monter la pression.
Comme Orton et Edge, et allez-y à fond là.
Ouais. Il faut de la rage, il faut de la brutalité, il faut se mettre sur la gueule. Catch up, évidemment, vous pouvez nous suivre hein, chaque semaine en podcast sur les plateformes Mojo, Apple Podcast, Google Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, également YouTube. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, votre top, votre flop et votre note. Est-ce que vous pensez qu'AJ Styles est allé trop loin en balançant l'adresse, l'âge, la date de naissance.
Il a même balancé le Gmail
du Tigger. Son compte MySpace.
Non, d'ailleurs, il doit avoir une adresse club internet, lui.
Oui. Et va chercher l'icos, va.
Ouais.
Vous pouvez également sur le Discord, le lien il est dans la description. On peut chatter comme ça ensemble, on peut parler, on peut se prendre la tête sur des sujets sensibles comme oui ou non, faut-il respecter le kayfabe d'un catcheur qui a 40 ans de carrière à la WWE. Merci à toi, Giscal, pour ta présence.
Oh, écoute, merci, Yerem, c'est un plaisir.
On se donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, évidemment, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Ciao, ciao tout le monde.
C'est qui me parle. If it's too much for Ragnar, that's not a problem. Ok, mais me parle pas là, les Anglais, là, ça y est.
Allez vous faire foutre.